Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour. Les patrons sont un peu inquiets, très inquiets. La principale inquiétude, ce serait la fin de la politique de l'offre. 10 ans de stabilité, de politique de l'offre, de fin de déclin industriel, de fin de chômage de masse, avec une fiscalité du capital enfin à peu près comparable avec ce que font les autres et une attractivité au top des pays de l'OCDE, confirmée déjà depuis plus de 5 ans. Et cette inquiétude s'est manifestée à Aix, elle s'est encore manifestée hier dans des prises de parole, que ce soit du MEDEF ou de la CPME. Les marchés, eux, ils encaissent le coup sans problème, on s'y attendait. Il ne s'est rien passé hier, en fait, il ne se passera rien demain. On va avoir un petit gouvernement technique, on va probablement passer l'été pépère. Mais ça va arriver, il va arriver le budget 2025. Il sera révélateur de que faisons-nous demain. Et est-ce qu'on rompt complètement notre trajectoire budgétaire et les promesses que nous avons pu prendre au niveau européen? Le gouvernement doit-il ressusciter la réforme de l'assurance chômage? Je pose la question parce qu'en fait, le décret, là, ça a été un décret uniquement de jointure qui court jusqu'au 31 juillet face à Gabriel Attal sur BFM TV la semaine dernière quand je lui dis « Mais alors, monsieur le Premier ministre, le 1er août, pourquoi pas ?» Pourquoi pas le 1er août, effectivement. Et puis, il y a cette sortie de Jean-François Husson, le sénateur LR, c'est dans les colonnes des Échos. Soit les promesses, on ne les tient pas et on aura menti aux gens. Soit on les tient et elles précipitent la France dans la crise et le déclin. Évidemment, il pense principalement aux mesures inscrites dans le programme du nouveau Front Populaire. Et puis, on dira aussi un mot de BYD. Intéressant ce qui se passe avec BYD. Parce que BYD va s'installer en Turquie. La Turquie a un accord avec l'Europe et n'est pas soumise aux surtaxes décidées contre les voitures électriques produites en Chine. Et pendant que BYD s'organise tranquillement pour pouvoir vendre des véhicules made in Europe, ou en tout cas sans barrière douanière, eh bien on voit que les ventes de Dacia Spring, made by Renault, mais made in Shanghai, sont tout simplement en train de s'écrouler en France depuis qu'on a modifié les critères d'attribution du bonus écolo. Bonjour Alexandra Roulet.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue plus près du micro Alexandra. Bienvenue, c'est une première pour Alexandra, professeure à l'INSEAD, membre du Conseil d'analyse économique et prix du meilleur jeune économiste 2024, décerné par Le Monde et le Cercle des économistes, c'est ça, hein. Avec nous Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Robin Rivaton, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Stonal, vous êtes également fondateur de Real Estate, membre du Conseil scientifique de la Fondapol et vous avez publié « Sourions, nous sommes filmés » aux éditions Alpha. Vous étiez à Aix, Robin Rivaton, on s'y est croisé. Les patrons sont inquiets, ils ont peur de la fin de 10 ans de politique de l'offre. Ont-ils raison, d'après vous?
En tout cas, 10 ans de politique de l'offre suivie, c'est l'une des rares politiques publiques qui a été suivie de manière continue dans ce pays, qui a débuté en 2014 à l'initiative de Manuel Valls, Emmanuel Macron, et suivie par François Hollande, et puis reprise ensuite par Emmanuel Macron sous ces deux quinquennats. Donc c'est une politique qui a fonctionné, au sens où aujourd'hui, elle a quand même permis de créer plus d'emplois en France et de sortir de ce chômage de masse. Il y a des vraies craintes qu'on puisse revenir dessus. Moi, ce que je vois chez les patrons, il y a deux écoles. Il y a les patrons des grands groupes qui, eux, c'est un peu business as usual. Ça continue de faire des opérations. Il n'y a personne qui a vraiment levé le stylo. Et la bourse en est aussi le reflet. On n'a pas eu de dévissage massif. Et puis, il y a les patrons propriétaires de leur entreprise, les entreprises familiales, les ETI, les petits ou grands patrons, qui, eux, voient bien que monte une musique en faveur, non pas seulement de la question de la politique de l'offre, mais de la taxation des plus hauts revenus et des plus hauts patrimoines dans ce pays. Et qui voit bien, ça va relier à notre autre sujet, que pour sortir de la nasse des finances publiques, qui sont dans un état catastrophique quand même, faut-il le rappeler, on voit bien qu'on a envie, on a très envie de mettre à contribution les plus aisés. Et donc je dirais qu'il y a deux écoles. D'un côté, il y a les grands groupes, où ça continue, et de l'autre côté...
Ce sont des mandataires sociaux, il faut rappeler d'ailleurs pour la
voilà, entre qui peuvent, oui, qui peuvent partir, qui sont relativement mobiles. Et puis il y a les gens dont une partie du patrimoine est liée à l'outil de production sur le territoire national et qui voient bien que eux, ils essayent, en tout cas, moi j'ai plusieurs échos de personnes qui essayent de déplacer, alors on ne déplace pas des outils de production, mais qui essayent de déplacer du patrimoine hors de France.
Et effectivement, bon, on imagine que même s'il y avait des mesures NFP, elles seront jamais toutes dans un programme de coalition. Mais s'il y en avait certaines, une notamment, et le retour de l'ISF, cette fois-ci incluant l'outil de travail. Ça veut dire qu'en fait, tu crées ta boîte grossit, t'es taxé, comme t'as pas de quoi payer parce que c'est pas du capital liquide, tu vends ta boîte.
Ouais, ou la fin de la flat tax, c'est quelque chose qui est pas mal évoqué. Enfin bref, il y a pas mal quelques mesures. Alors la fin du CIR aussi, il y a plein de petites mesures qui traînent dans l'air depuis longtemps et dont on voit mal comment elles ne seront pas mises en œuvre dans le PLF 25, au sens où de toute façon il va falloir trouver des économies rapidement.
Là, j'ai fait le pari, hein, Robin, que pour la première fois depuis de nombreuses années, il allait se passer un truc sur le CIR dans le PLF 2025. Je suis quasiment sûr. Alexandra Roulet, votre parce que. On en parlait juste avant l'émission. On voit bien qu'il y a des gens qui croient encore à des solutions comme le blocage des prix, comme le fait d'augmenter le SMIC de 2 points, enfin à 2 chiffres, ou encore avancer l'âge de départ à la retraite, ou ressusciter l'ISF. Évidemment, quand on écoute les réactions des chefs d'entreprise, de ce que vient dire Romain Rivaton, c'est pas une solution pro-business. Mais à côté de ça, on peut pas complètement être sourd aux gens qui sont séduits par des mesures qui iraient jusqu'à des mesures fiscales. Il va falloir trouver un truc qui tienne la route, quoi.
Tout à fait. Je pense que on a beaucoup dit, beaucoup d'économistes soutiennent le programme du Nouveau Front Populaire, etc. Je pense que la vérité est un peu plus complexe que ça. Il y a dans le programme du Nouveau Front Populaire des mesures qui sont objectivement assez absurdes. Par exemple, même dans les petits détails, revaloriser les allocations logement de 10%, on sait bien que ça va profiter en fait aux propriétaires qui vont augmenter les prix. Donc, j'ai du mal à penser que beaucoup d'économistes soutiennent véritablement mesure par mesure tout ce qui est dans ce programme. Et d'ailleurs, dans le manifeste de soutien, tiens, il est très clairement écrit, ce manifeste ne vaut pas blanc-seing. Et je pense que cette phrase est assez importante. Simplement, pourquoi des économistes ont soutenu ce programme et pourquoi des Français ont quand même voté massivement pour le nouveau Front Populaire, c'est qu'il y avait, il y a un esprit, c'est-à-dire qu'au-delà des mesures, du détail des mesures, dont certaines sont franchement un peu absurdes, comme indexer tous les salaires sur les prix ou bloquer les prix, il y a l'idée qu'il faut davantage partager les gains de prospérité qu'on a en France, qu'il faut peut-être davantage redistribuer, qu'il faut prendre en compte les classes populaires et les classes moyennes inférieures qui ont l'impression d'être déclassées. Et donc cet esprit-là,
c'est parfois pas qu'une impression. Hein,
exactement. Et donc cet esprit-là, je pense qu'il faut il faut l'entendre.
Il faudra l'introduire d'une manière ou d'une autre, peu importe la couleur définitive de cette composition qui s'installe.
Je pense parce que c'est important, y compris. Alors Robin Rivaton avait tout à fait raison de rappeler que la politique de l'offre a produit des effets économiques positifs. On a tendance à l'oublier parce que dans le débat politique,
nier parfois.
Voilà, le bilan économique devient totalement inaudible. Mais il est vrai qu'on a créé beaucoup d'emplois. Il est vrai qu'on ouvre plus d'usines qu'on en ferme, alors que c'était l'inverse avant. Donc tout ça, c'est des que la France est redevenue un pays attractif, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut dire et redire. Mais on peut pas s'arrêter là. Il faut aussi dire que cette politique économique, malgré ses bons résultats, elle ne rassemble plus. Elle ne rassemble plus une majorité.
Ouais. C'est très 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 vrai. Ouais, c'est un vrai sujet là. On pourrait faire réagir tout le monde là-dessus, Mathieu, parce que on voit bien que l'objectif de la cuisine, j'appelle ça la cuisine, hein, ce qui se passe actuellement au Parlement, ça va être d'essayer au maximum de réunir, de considérer qu'ensemble c'est du centre droit et d'aller chercher du LR, voilà, pour dire finalement au NFP, ben regardez, finalement c'est nous la majorité, et on peut pas être sourd. Alors, elle a complètement raison, Alexandra. Et pourtant, on a un système de redistribution monétaire qui est l'un des plus efficaces du monde. Et pourtant, c'est vrai qu'on peut aligner des quantités de chiffres qui sont rassurants, qui sont des chiffres globaux de macroéco, qui peuvent nous faire considérer qu'on va dans la bonne direction. Eh bien, ça ne rassemble pas.
Oui.
Il va
falloir trouver un moyen, parce qu'effectivement, il y a une déconnexion entre effectivement ces résultats plutôt positifs sur les mêmes chiffres macro, même sur le pouvoir d'achat d'ailleurs. Qui est loin de décliner par rapport à d'autres pays.
Ce que vous venez de dire, je vais avoir des réactions.
Les chiffres macro donnent des tendances, mais ça donne pas l'hétérogénéité en fait. Et d'ailleurs, on sort d'un choc inflationniste très particulier, en particulier sur l'énergie et l'alimentaire, où on a vu qu'il y a effectivement une moyenne globalement qui stabilise, mais que les revenus du travail, en tout cas les salaires, ne sont pas la composante qui crée la dynamique principale dans la hausse du pouvoir d'achat aujourd'hui. Et que pour certains, salariés qui sont juste au-dessus du SMIC, qui ont pris de plein fouet le choc inflationniste parce qu'ils sont périurbains, parce qu'ils sont en zone rurale, parce que c'est des ménages de la, du bas de la classe moyenne, mais qui n'ont qu'une garantie de hausse de leur revenu et de leur salaire parce qu'il n'est pas indexé. Alors oui, forcément, le choc sur le pouvoir d'achat est très fort et très négatif. Et donc, il y a effectivement cette colère-là. Il y a le sentiment qu'effectivement, il y a une politique économique qui a des résultats, mais qui a été beaucoup axée sur les entreprises et le capital, très clairement, hein, et c'était un choix qui a été fait depuis François Hollande, mais que malgré un système, et c'est là où ça coince, c'est que malgré un système de redistribution fort, on voit qu'aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat des inégalités reste prégnante dans ce pays-là. Donc, comment y répondre ? Comment y répondre ? Effectivement, le problème, c'est que le programme du Nouveau Fonds Populaire est plus ou moins le programme de la LFI.
Oui,
en fait,
oui,
parce que en réalité, ça a été fait en 3 semaines et donc ça a été fait
en 2 heures même.
En 2 heures, mais qui a été repris de ce qui avait été construit en réalité autour d'un programme de la LFI qui est très marqué sur des mesures fiscales extrêmement fortes, sur le SMIC, sur une très forte redistribution, les services publics, très peu de cadrage budgétaire, etc. Donc ça pose la question de comment ce programme va évoluer en fait, parce qu'il passera jamais. Honnêtement, c'est impossible. Bien sûr. Donc, mais quelles sont les mesures qui vont rester à la fin, en fait, si vous voulez pas qu'il y ait des motions de censure. Donc, moi, je comprends aussi un peu tout le monde. Je comprends l'attente des Français parce qu'il y a des mesures choc et très fortes qui ont été annoncées. Et puis, je comprends l'inquiétude des entreprises de l'autre côté parce qu'on ne sait pas où on va. À quelle sauce elles vont être mangées. Est-ce que finalement, ça sera juste le statu quo, mais ça crée aussi l'incertitude parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Qu'on est quand même sous une procédure de déficit excessif. Ouais, donc on gagne du temps. La bonne nouvelle, c'est que le RN est très loin de la majorité. Et que ça, c'est les marchés, je pense.
La peine de parler du programme du RN.
Voilà. Et que du coup, on est quand même quelque chose sur des axes qui, j'allais dire, sont quand même plus ancrés historiquement sur des gens qui ont une habitude de gouverner, en tout cas une partie quand même de la gauche. Qui ne sont pas totalement anti-européens. Voyez, il peut se faire des choses. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, c'est quand même assez difficile de se dire où va la France. Jamais, j'allais dire, il y a eu un tel éclatement politique. Et c'est vrai que si vous n'arrivez pas à avoir une majorité qui se dégage, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, comme le disait Alexandra Roulet, effectivement, on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé, on ne peut pas considérer qu'on peut complètement rester sourd. Ben, si on additionne les quelques presque 10 millions de votes RN ou 7,5 millions de votes NFP, ça fait du monde quand même.
Ben oui, ça fait
on ne peut pas considérer que les faits sont là, les résultats de la politique de l'offre sont là. Oui. Alors, il faut les entendre, il faut peut-être redistribuer davantage. Emmanuelle Auriol du Cercle des économistes, professeur à l'École d'économie de Toulouse, a pas mâché ses mots quand elle était à Aix avec moi. Elle a dit, j'entends tout ça, mais est-ce que les Français comprennent à quel point ils sont dans un pays relativement gâté aussi ? Vous voyez, c'est courageux de dire un truc comme ça aujourd'hui. Hein. C'est pas tellement l'ambiance du moment.
Mais oui, je pense qu'il y a eu aussi une fracture politique assez forte, y compris au sein du gouvernement, avec la réforme des retraites, typiquement.
Ah ben là, c'est...
Je pense que... Forcément, on a un conseil d'orientation du corps qui donne quand même des informations assez claires sur le besoin de financement. La question, c'est quelle modalité on doit mettre en place pour ce financement. C'est clair, revenir à la retraite à 60 ans n'a pas de sens aujourd'hui quand on voit les besoins de financement structurels qu'il y a sur les questions de vieillissement. Mais par contre, le passage en force sur une telle réforme, sans négociation, sans ouvrir la porte à des négociations, y compris sur des mesures de cotisation, des mesures d'âge, je sais pas, enfin, il peut y avoir plein de choses qui peuvent discuter sur les évolutions des pensions, pose un problème de dialogue social quand même. Je pense que ça fait partie de la colère, et que donc, il y a un moment donné, il y a besoin de réouvrir un dialogue, quoi.
Robin Rivaton.
Deux choses. D'une part, on voit quand même que le scénario du corps était déjà trop optimiste. On voit que les prévisions actuelles sont... La réforme ne suffira pas à remettre le régime des retraites à l'équilibre dès cette année. Je vais vous dire autre chose. C'est qu'il y a déjà eu un coup de canif qui a été porté à la politique de l'offre le 1er juillet, quand le Premier ministre Gabriel Attal a refusé de publier le décret de réforme de l'assurance chômage. On a aujourd'hui une Unédic qui est en train de plonger dans les comptes, sont en train de plonger. Vous parlez aux administrateurs de l'UNEDIC et avec un marché du travail qui est en train de se retourner, c'est un système d'assurance chômage qui va plonger dans le rouge très fortement. On a mis un premier coup de canif et il n'a pas été porté ni par la NFP ni par le RN, il a été porté par l'actuelle majorité qui avait porté les coups politiques de cette réforme. C'est-à-dire que c'est vraiment, je suis désolé, mais c'est de la démagogie à 100%. C'est-à-dire que vous avez porté les coûts politiques de la réforme, de cette mesure-là, et vous le changez trois jours avant le scrutin. Ça n'a aucun sens d'un point de vue.
Je lis juste, et d'ailleurs ça vous concerne Alexandra, mais je vous laisserai réagir à ce que vient de dire Romain. Arnaud qui m'écrit, le jugement de votre invité concernant la hausse des appels est un peu rapide. Il va de soi que cette hausse sera accompagnée par un blocage des loyers dans les zones tendues, m'écrit-il. Bon, vous vouliez réagir à ce que disait Romain Rivaton.
Oui, je voulais réagir sur l'assurance chômage, parce que autant moi j'étais très en soutien, j'y ai même contribué, je travaillais à l'époque au cabinet d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron à la réforme de l'an dernier qu'on a réduit la durée
à la précédente.
Okay. On a réduit la durée d'indemnisation, on a rendu l'assurance chômage contracyclique. Autant je pense que la réforme de cette année était beaucoup plus discutable. Alors on pourrait dire, vous avez changé d'avis en un an ? Pas du tout. Je considère qu'elle était plus discutable pour deux raisons. D'une part, elle était plus contracyclique, puisque ça venait réduire la générosité.
C'est vrai que ça se discute là.
En phase basse de cycle économique. Et d'autre part, comme on avait déjà fait deux réformes, quelque part, et ça revient sur le sujet de répartition de l'effort et de demande de justice sociale, on avait envie de dire, les chômeurs, ils ont déjà contribué à l'effort en partie budgétaire et l'effort vers le plein emploi, puisqu'il y a déjà eu deux précédentes réformes qui, encore une fois, je pense, étaient tout à fait justifiées du fait de notre système et de notre taux de chômage. Autant celle-là, elle me paraissait pas justifiée. Et je pense que pour une économiste qui pourtant est une économiste du centre en faveur du plein emploi, etc. Donc je
pas justifiée à cause du moment ou à cause des
à
mesures.
Cause du moment et à cause du fait qu'il y en avait déjà eu deux. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, quand on durcit l'assurance chômage, il y a toujours deux effets. On va renforcer les incitations à l'emploi, c'est pour ça qu'on fait le durcissement. Mais d'un autre côté, il y a des gens pour qui, même si on renforce les incitations, ils ne vont pas trouver d'emploi.
Oui.
Et donc ces gens-là, on vient quand même les précariser, ça il faut le dire. Et donc l'idée, c'est de trouver un équilibre.
Ça ne l'a jamais d'ailleurs nié. Hein.
Oui, voilà. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. Et donc, la première réforme, on fait la première réforme. La deuxième réforme, voilà, je pense qu'on est toujours en quelque sorte du bon côté de l'équilibre où le renforcement des incitations se justifie par rapport aux éventuels effets pauvreté qu'on peut créer. Mais là, je pense qu'on est arrivé dans une zone où on allait avoir plus d'effets pauvreté que d'effets retour à l'emploi, si vous voulez. C'est mon jugement. Mais
terminé, Alexandra, et puis.
Et donc, je pense que Gabriel Attal a bien fait de suspendre ce décret, parce que clairement, c'était aussi une façon d'entendre le vote de la veille.
C'était voilà. Un choix politique.
Mais,
là, hein.
Voilà, mais je pense que vous parliez du 1er août. Je pense que cette réforme, il faut l'enterrer. C'est au moins une façon de dire. Si on réfléchit à voix haute à comment justement prendre en compte le vote des Français sans nécessairement remettre en cause la politique de l'offre, c'est une des façons. C'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qu'on pourrait faire, que ce soit pour le plein emploi ? Et je pense que oui. Des mesures sur le marché du logement, des mesures qui viendraient bien sûr fluidifier.
Il faudrait s'y mettre un jour sur le logement. Ouais.
Et ça aurait des répercussions sur le marché du travail. Tout n'est pas question d'incitation, si vous voulez. Ouais. C'est pas vrai. Donc, il faut trouver un juste équilibre et donc avoir un éventail de mesures plus diversifié.
Sur la politique de l'emploi et le plein emploi, vous mettez le logement en tête parmi les éléments sur lesquels il faudra intervenir, qui ne sont pas des éléments justement d'État-providence. Mais
je pense que le logement est un... Oui, je pense qu'il faut maintenant travailler en oblique, c'est-à-dire fluidifier d'autres marchés pour avoir des répercussions positives sur le marché du travail. Je pense aussi, sur le plein emploi, ce qu'on a trop peu dit, c'est que les réformes qui ont été décidées, notamment au tout début de deuxième quinquennat, elles montent en charge graduellement. C'est-à-dire que la réforme des retraites, elle est très loin d'être pleinement montée en charge. La réforme de l'assurance chômage de l'année dernière, de 2023,
n'a pas encore produit tout ça,
elle s'applique au flux. C'est-à-dire que la plupart des demandeurs d'emploi ne sont pas assujettis à ces règles. C'est que les gens qui ont ouvert un droit à l'assurance chômage après le 1er février 2023. Donc je ne sais pas, ça concerne peut-être 10% des demandeurs d'emploi. Enfin, le chiffre, je ne le sais pas, mais c'est le flux. Et donc, ce qui se passe, c'est que le plein effet de ces réformes, on le verra dans 3 ans. Donc c'est trop tôt pour dire, ah là là, le chômage n'a pas encore suffisamment baissé, faisons plus. Non, attendons que ces réformes montent en charge. La réforme de France Travail, c'est pareil, elle monte en charge graduellement.
Voilà, on ne se permettra pas de faire un bilan de France Travail 6 mois après,
non,
heureusement
voilà.
Quand même.
Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se dire le taux de chômage n'a pas encore suffisamment baissé. Il est à ce niveau-là parce qu'il y a eu une politique monétaire restrictive et que les réformes ne sont pas pleinement montées en charge. Attendons.
Il y a Louis qui m'écrit, les Français n'ont pas voté pour le NFP, ils ont voté contre le RN. Certains sans doute, c'est vrai, mais enfin
c'est
bon, après on en est. Vous voulez réagir donc à ce que
je disais,
Alexandra Roulet.
Il y a trois lunettes d'analyse des réformes. Il y a effectivement la recherche du plein emploi, il y a l'effet pauvreté et il y a l'équilibre des comptes. de l'assurance chômage. Je veux dire, aujourd'hui, l'équilibre des comptes des administrations publiques en général, l'assurance chômage.
L'UNEDIC, il est excédentaire. Hein,
quoi ? Il y a une dette.
Non, mais
il y a une dette. Viens dans le micro, Mathieu.
Il y a une dette monstrueuse.
La dette, elle est aussi liée au chômage partiel et des choses comme ça.
Elle est à 55
liée au chômage intermittent, elle est liée à plein de choses.
Aujourd'hui, non, non, mais c'est une question. Mais sur, si on regarde pas la dette, mais effectivement le flux, c'est-à-dire le solde, il y a un excédent du côté du régime de l'assurance chômage. C'est pas là où il y a le plus. Sur le côté des retraites, c'est plus problématique que sur l'assurance chômage.
Et c'est quand même ce qui va nous ramener un peu sur terre. C'est qu'aujourd'hui, on a eu les chiffres du déficit public des administrations publiques au 31 mai 2024. On est sur une trajectoire qui est pire que l'année dernière. Alors, en valeur absolue, mais on est sur une trajectoire où on est censé avoir coupé des dispositifs de soutien à l'économie et on ne comprend pas pourquoi les comptes publics présentent une situation aussi dégradée. Et ça va être quand même là le juge de paix de septembre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des envies de justice sociale, on peut avoir des envies de politique de l'offre. Quelque part, la réalité qui va nous ramener tout ça et qui va être le juge de paix, ce sera quand même le fait de savoir est-ce qu'on peut présenter un budget qui ne reprend pas encore 5 points de déficit par an. Est-ce qu'on réduit les 3,2% de déficit structurel de ce pays ?
Mais quand vous dites que fin mai, on est dans une situation plus dégradée qu'il y a un an, tandis qu'on a effectivement quasi tout débranché, il reste un petit peu de droit d'assise encore sur l'électricité qu'on va remettre, mais et on est censé avoir par décret indiqué 10 milliards d'économies fin mai ou début février, en avoir ajouté 10 autres qui ne sont pas renseignés. Donc ça veut dire qu'on est... on a la corde au cou et on ne sait même pas expliquer qui a fait le nœud et pourquoi il se sert. C'est un peu ça l'histoire.
Les spécialistes des finances publiques se posent la question.
Il vient quand François Eckhall ? Je vais le cuisiner, moi.
Et surtout, ce que vous regardez quand les chiffres du premier trimestre sur le terrain, la croissance, elle est tirée par la consommation publique et l'investissement public.
Conso public ?
Et investissement public.
Qu'est-ce qu'on met dans conso public ?
C'est tout ce qui est dépenses d'éducation et santé. Ouais. Notamment, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas du tout un secteur qui est en consolidation, en tout cas quand on le voit d'un point de vue comptable, comme ça. Et c'est vrai que la marge d'escalier, on le voyait, déjà de partir de 5,5 qui n'était pas une bonne nouvelle par rapport aux 4,9 annoncés, en dessous des 3, nécessitait un régime d'amaigrissement ou en tout cas de réduction des déficits structurels extrêmement important, voire peut-être un peu trop violent. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dans une situation un peu hors sol par rapport à ça.
Il y a certaines théories qui disent que ce qui a poussé Emmanuel Macron à dissoudre, c'est pour éviter l'obstacle en fait. C'est tellement énorme les économies qu'il faut faire d'ici 2027 que je vais les filer à quelqu'un d'autre.
Ouais, mais alors l'obstacle, je sais pas qui va le prendre.
Oui, non là. c'était passionnant de vous écouter, notamment sur la réforme de l'assurance chômage, parce que je rappelle que c'est donc un décret de jointure juste. Il y a un décret purement technique pour que le système continue à fonctionner avec les règles actuelles. Et c'est vrai que 1er août, il n'a pas été très clair, Gabriel Attal, quand je lui ai posé la question. Bon, quand il était là, il ne savait pas trop lui-même où il était 3 jours après. C'est pas non plus super simple. Il faut entendre ce qu'ont dit les gens, mais pas faire n'importe quoi. Alors tiens, j'ai 2-3 idées à vous soumettre juste après. Parce qu'il y a un moment, la tambouille, la cuisine, je te donne ça, tu me donnes ça, ok pour ça, mais alors on ne le fait pas vraiment comme tu as dit, on le fait comme ça. Enfin, ça va être un peu ça, dans la vraie vie. On pourra dire un mot des réactions, de la non-réaction de marché, mais justement, Mathieu, on reviendra sur le juge de paix, c'est le budget. S&P nous a dit hier, je vous fiche la paix, mais on se revoit en octobre. À tout de suite.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Alexandra Roulet, professeur à l'INSEA, membre du Conseil d'analyse économique et prix du meilleur jeune économiste 2024. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Robin Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Il a publié Sourillons, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Il y a Lionel qui demande si on a des nouvelles de Bruno Le Maire. Je n'ai pas de nouvelles de Bruno Le Maire. D'ailleurs, je me suis posé une question. Gérald Darmanin nous dit qu'il va aller siéger au Parlement dans quelques jours, mais normalement, il est ministre de l'Intérieur. Et donc en fait, il va rester ministre, c'est son suppléant qui va...
Non, il ne peut pas tant que c'est le gouvernement, ouais. Ce n'est pas le gouvernement des affaires courantes, donc il faut que la démission du gouvernement soit acceptée, voilà, pour qu'il puisse aller siéger à...
Alors, ça fait quand même maintenant, ben voilà, 2 jours qu'on se dit comment on va, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient dans la sauce. J'ai eu une proposition de Stéphane Carcillo, parce que là, il y a l'histoire du SMIC à 1600. Je rappelle toujours, c'est pour un temps plein à 35 heures, hein. J'ai eu ce débat avec Marine Tondelier qui me disait c'est la pauvreté du SMIC. Je disais c'est la pauvreté quand on est en temps partiel. Mais à plein temps, si on est seul dans une région où la vie est moins chère que dans les grandes villes, on n'est pas sous le seuil de pauvreté. Voilà, avec le SMIC, auquel va s'ajouter la prime d'activité, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, effectivement, Stéphane Carcillo, c'était dans l'entre-deux-tours, nous a démontré, il est président du groupe des experts sur le SMIC à la suite de Gilles Berset. Il a démontré que, plus 14% d'un coup, c'est juste un suicide. Et donc lui, il dit, il faut utiliser la prime d'activité. Il ne faut pas toucher au SMIC, surtout pas à plus 14%. Et il dit, avec la prime d'activité, on peut apporter une réponse aux attentes. Et ça peut être une manière, peut-être, d'agir en ayant entendu ce que les gens ont dit, sans faire n'importe quoi. Après, je vous laisse réagir. Et la deuxième chose, abroger la réforme des retraites. Bon, je reviens pas sur le fait que par décret, c'est pas possible. Ce sera retoqué par le Conseil d'État. Mais là, et c'était qui m'a proposé ça, je sais plus. Si, c'est Xavier Thimbault hier, je crois, qui disait ça. Il disait, on peut y réimaginer remettre sur la table la réforme des retraites en disant que c'est plus finalement avec la borne d'âge qu'on agit, mais avec les annuités. Parce que si vous mettez la borne d'âge à 62, mais que vous tirez les annuités, vous avez des effets qui sont un peu cousins. Bon, je viens de vous donner deux pistes. Ouais.
Alors, âge pivot, quoi. Bon, il n'y en a pas une qui fait gagner des euros. Hein.
Ah, mais si, on peut, mais avec un âge pivot. Enfin, on revient à un régime à points ou des choses comme ça. Quoi.
Oui, enfin... Bon, je sais pas ce que je dis là, par exemple, Romain Rivaton, vous dites...
Non, mais elle est dans le sens, effectivement, du détricotage de la... Même pas de la politique de l'offre, de la gestion saine des comptes publics. Encore une fois, la corde de rappel va être extrêmement violente. Vous avez cité ce que disait S&P, mais on peut pas être un pays qui enchaîne 5% de déficit des comptes publics 4 années d'affilée. Ça n'existe pas. On peut essayer, mais ça va se tendre à un niveau très très fort. Et nos partenaires européens, la voix de la France suite aux élections européennes, c'est énormément, a perdu énormément de sa force à Bruxelles. Et nos partenaires européens nous surveillent de manière extrêmement, extrêmement attentive sur ce qui va être les annonces qui vont être faites. Et je pense que le symbolique en politique publique ou en finances publiques importe parfois autant que les mesures réelles. Et donc remettre sur le métier à tisser une réforme qui a été validée il y a 8 mois, c'est un acte extrêmement, extrêmement dangereux qui aujourd'hui peut aboutir à une tension sur la note souveraine, la dette souveraine de la France très rapidement.
Mais si on fait ça, on est dégradé.
Je rappelle souvent Liz Truss, ça, en septembre, ça a été extrêmement, extrêmement rapide. Alors vous allez 2022, dire, c'est pas l'euro. 2022. C'est 2022, il y a 2 ans. Mmh. C'est pas l'euro. C'était une zone monétaire qui est un peu plus faible que la zone euro. Mais le GLIT britannique, en 24
le
heures.
Le titre de dette britannique.
Oui, l'OAT britannique, l'équivalent de l'OAT britannique, s'est tendu extrêmement rapidement à un point que, beaucoup de gens ont eu très peur sur le marché. Et aujourd'hui...
Oui. La livre s'est cassée la gueule.
Les dernières émissions françaises de dette, on a été 3 sur 4 qui ont été faites au prix limite. Hein, donc ça montre bien qu'il y a de la demande, mais cette demande, elle est pas non plus extensible à l'infini. Donc moi, j'invite quand même tous les gens qui sont raisonnables, et on a quand même des gens qui sont raisonnables en politique, à faire très très attention à ça, parce qu'une fois que c'est cassé, ça ne revient pas en arrière. Malheureusement, c'est comme l'élastique. Quoi.
Ah, c'est terrible, parce que c'est un discours frappé de la raison, ce que vous faites, Robin Rivaton. Et j'entends ce que dit Alexandra. On ne peut pas non plus penser qu'il n'y a pas eu de législative.
Non, mais bien sûr.
Cet hémicycle de malades là, qui vont là sous les yeux, où plus personne ne comprend rien. C'est totalement inédit. Réaction à ce que dit... Parce qu'il a raison, Robin. Hein.
Oui,
l'incident de crédit, c'est la pire chose pour une nation.
Ça, il faut absolument... Et de ce point de vue-là, même si on ne va évidemment pas revenir sur le Rassemblement National, il faut quand même aussi se réjouir du fait que le Rassemblement National ait été écarté du pouvoir, parce qu'avec son programme anti-européen, anti-écologie, etc., on aurait eu potentiellement aussi des mesures compliquées. Sur la situation actuelle, je pense qu'encore une fois, il va falloir être dans une recherche de compromis, d'équilibre. C'est ce que les Français nous demandent. Donc, par exemple, sur le SMIC. Il est évident qu'augmenter le SMIC à 1 600 euros, c'est suicidaire pour de nombreuses TPE, PME et même établissements industriels. Cela étant, il faut aussi pas tomber dans des discours totalement idéologiques. C'est-à-dire que sur le SMIC, on entend des économistes qui disent « ça fait que détruire de l'emploi », des économistes qui disent « ça n'en détruit pas ». Alors, elle est où la vérité ? La vérité, c'est qu'il y a de l'hétérogénéité sectorielle, de l'hétérogénéité en fonction des entreprises. Il y a eu quand même maintenant beaucoup d'études qui montrent que certains grands groupes, par exemple un fast-food, vous augmentez le SMIC, il va augmenter ses prix. Et donc, il ne va pas détruire de l'emploi. C'est juste que les consommateurs vont payer plus cher le burger. Évidemment, dans d'autres petites entreprises, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit exactement ce qu'il fallait faire, mais il faut qu'on puisse se parler ensemble. Donc, il faut absolument qu'on sorte de clivage idéologique où les gens voient la réalité toute noire ou toute blanche. Elle est souvent plus nuancée, il y a souvent de l'hétérogénéité. Et donc, sur le SMIC, entre le SMIC actuel qui est presque à 1400 et 1600, il y a peut-être une augmentation de 50 euros du SMIC qui est possible. Je ne sais pas. Je dis pas. Si vous voulez, c'est pas que je la soutiens particulièrement. Je dis juste que il va falloir être dans cette recherche de compromis. Et alors sur la prime d'activité, la proposition de Stéphane Carcillo, donc je vois l'esprit, je comprends tout à fait. Le petit sujet de la prime d'activité, c'est que ça vient un peu socialiser les salaires. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on voit la limite de la logique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite à faire en sorte que ça peut pas être l'État qui paye de plus en plus une partie de votre revenu.
Avec des gens qui ont un tiers de leur revenu qui
vient
de...
C'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'en fait, la solution serait peut-être d'augmenter le SMIC de 50 euros pour répondre à cette demande, ou je dis 50 euros complètement au hasard, plutôt que d'aller côté prime d'activité, qui va en plus des conséquences sur les finances publiques, qui rejoint le point de Robin Rivaton à l'instant.
Et j'entends pourtant ce qu'il dit Robin, il y a un moment. On ne peut pas se permettre d'oublier qu'on est déjà à 3 années de 5% de déficit. Quoi.
Alors, pour 4 l'année prochaine. Ouais,
moi, pour poursuivre, Mathieu...
Ouais, non, mais il y a le budget et le SMIC, hein, donc ça fait beaucoup.
On a 19 minutes 50
secondes. 19 minutes, non, non.
Je ne donne pas 19 minutes.
Non, ok. Juste sur la question du SMIC, c'est vrai que c'est un gros marqueur, en fait, hein, cette hausse du SMIC.
Oui, bon, en plus, c'est les salaires indexés, le SMIC.
Salaires indexés, mais ça pose plein de questions. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un des points d'entrée qu'a le gouvernement pour augmenter les salaires. Mais on voit bien que la limite de l'exercice, c'est effectivement le risque de destruction d'emplois. Alors nous, on a chiffré. Hein, ça
faisait... 29 000 nets,
ouais,
net, sur un an.
Si ce n'est pas financé, parce qu'en fait, il y a des histoires d'exonération de cotisations, etc. Ça dépend aussi de la temporalité. Est-ce que c'est fait immédiatement ou sur 3 ans? Ce qui n'est pas la même chose que si vous prenez l'inflation au compte, le réel n'est pas le même.
C'est clair.
Ouais, mais on sort d'une séquence où moi, je pense que le problème, c'est le tassement des salaires et plutôt le salaire médian. Et qu'en fait, la réponse du SMIC, elle va plutôt tasser les salaires, ceux qui sont entre 1004 et 1006.
Bien sûr.
Avec la prime d'activité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en net, une personne seule à 1400 euros, à 200 euros en gros de prime d'activité.
250, je crois même.
Ouais, donc on est un peu plus de 1006.
Voilà.
Si vous prenez le salaire médian, il est autour de 2100, je crois.
Un point,
chose comme ça, et vous commencez à payer des impôts. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une échelle des salaires qui est extrêmement compressée.
Oui.
Et donc le risque, en fait, d'augmenter fortement le SMIC, c'est de compresser encore plus l'échelle des salaires. Donc ça veut dire qu'il faudrait une réponse très forte sur les autres salaires. Et donc, il n'y a qu'une diffusion sur toute la grille des salaires. Et donc, c'est comment, après, les entreprises l'absorbent, une telle diffusion. Mais moi, je pense qu'il faudrait travailler sur la dynamique des salaires, au-delà du SMIC. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est cette compression. C'est que les gens qui se plaignent, ce n'est pas que des gens au SMIC. Même, je pense que c'est essentiellement des gens qui sont au-dessus du SMIC.
Un peu au-dessus. Mais c'est l'objet du rapport Bozio-Vasmer.
Exactement.
Et ça fait 10, 20 ans, 30 ans qu'ils bossent, et ils gagnent 10, 20, 30% de plus que le SMIC seulement. Sauf que, effectivement, on une maison à rembourser, une charge de famille, etc., ou une expérience, une qualification, mais leur travail, finalement, est assez peu rémunérateur par rapport à quelqu'un qui est au SMIC. Donc moi, bien sûr, il ne faut pas baisser le SMIC, éventuellement, il faut trouver des compléments de prime d'activité, mais le grand débat, il est de comment redynamiser les grilles du salaire. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de diplôme, commencez au SMIC, à 1400 euros, si vous avez une prime d'activité, ce n'est pas la catastrophe, hein, si vous êtes en province. Par contre, si vous avez 20 ans de plus de boîte et que vous êtes juste 20% au-dessus du SMIC et que vous avez des enfants, là, c'est la galère. Et vous n'avez pas de perspective de carrière. Donc, il y a toute cette réflexion à avoir. Et moi, je pense que c'est un point limite de réfléchir que sur le SMIC. Voilà. Et qu'on devrait réfléchir à l'ensemble de la grille salaire, et bien sûr qu'il faudrait mettre
Pas oublier de dire qu'il y a réfléchir à tout ce qui ne se voit pas,
l'espèce de
pente incroyable des allègements de cotisations.
Ça veut dire qu'il y a la question de cette fiscalité, de la prime d'activité qui se complémente avec tout ça, des exonérations et des taux marginaux justement au niveau du SMIC, c'est-à-dire qu'on a quand même des trappes à bas salaires, quoi. Et puis un autre problème quand même qui est plus macro, c'est qu'on a perdu en productivité quand même. Et que aussi, si on veut augmenter les salaires significativement, il faut qu'on regagne en productivité. Donc, il ne faut pas aussi oublier ce petit problème macroéconomique qui n'est pas un petit problème.
Non, qui n'est pas. Et c'est le point négatif du si on fait le bilan de la politique de l'offre, c'est que ça s'est.
Mais par contre,
aussi,
politiquement, ce que j'ai dit, c'est invendable. C'est-à-dire que, effectivement, le SMIC est un marqueur très fort, mais qui veut dire qu'il faut revaloriser les salaires, mais cette revalorisation doit s'accompagner d'une revalorisation.
Vous vous rendez compte comme on est dans
une réflexion profonde.
On ne sait pas, en fait. On ne sait pas gérer ces problèmes d'effet de seuil avec la remontée de la pente des allègements de cotisations.
On peut quand même. On est arrivé à un. Donc, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on a 17% de salariés au SMIC en France.
17,3.
Ouais, ce qui est vraiment énorme par rapport à d'autres pays. Donc il y a le sujet de la progression au-delà du SMIC. Mais oui, on est allé jusqu'à zéro charge au niveau du SMIC. Donc on a. Et alors qu'après, tout d'un coup, en effet, on a ces gros effets de seuil. Et ben, on pourrait peut-être. Qu'il faut envisager, puisqu'on a cette contrainte de finances publiques qui ne nous permet pas de redistribuer les allègements et d'augmenter les allègements, mais qui nous permet simplement de reprofiler la pente, peut-être qu'il faut augmenter un tout petit peu les cotisations au niveau du SMIC pour les baisser plus haut, pour essayer d'inciter les gens à faire progresser. Je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'il faut faire, je dis qu'il faut mettre toutes les options sur la table. Et ça me paraît peut-être plus intéressant de reprofiler juste au niveau du SMIC que d'aller supprimer les allègements qui sont plus hauts dans la distribution et qui bénéficient à l'industrie.
Alors, il y a ceux qui disent il faut aller prendre les allèges
plus haut parce qu'il n'y a pas d'effet emploi.
Voilà. Il y a ceux qui disent pour financer tout ça, on va aller prendre les allèges de cotise entre 2,5 et 3,5.
Oui, et moi, vous voyez, je suis plus réservée sur la question parce que je pense qu'en fait, si vous voulez.
Ça pénalise le pays à terme.
En fait, au niveau de 2,5, 3,5 SMIC, on touche de l'industrie, certaines main-d'œuvre qualifiée, etc. Là, l'idée, ça serait plutôt de redistribuer. Juste autour du SMIC, parce que c'est les mêmes entreprises, donc elles ne seraient pas forcément perdantes au global. Les entreprises qui ont des salariés au SMIC, elles ont des entreprises aussi juste au-dessus du SMIC. Voilà. Donc si on leur. Peut-être que pour ces secteurs-là, ça serait un peu neutre. C'est juste qu'au sein de leur main-d'œuvre, ça serait un peu plus chargé au niveau du SMIC et un peu moins au-dessus.
C'est bien de rappeler que dans certaines situations, ça fera monter les prix aussi. Vous voulez réagir à ce qu'on vient de dire? Parce que moi, j'aimerais vous.
Un mot des impôts. Le débat, le serpent de mer de savoir où il faut faire des allègements de charges. Je rappelle juste que.
Si. Y revenir.
Non, bien sûr, si à la fin on fait des. Oui, parce qu'on a construit. On a construit.
Mais c'est à 70 milliards, on a vu ça pour le coup.
Non, mais si on va à 1600, on a plus de 20% des actifs au SMIC.
On a construit un truc qui est extrêmement complexe. Il y a une usine à gaz absolue. Et après, on se dit, il est complexe de faire évoluer l'usine à gaz. Et après, ça aussi, c'est quand même un truc qui est une mentalité très française de construire des dispositifs qui, sur le papier, sont une complexité absolue. Vraiment, il y a quand même peu de pays qui ont quelque chose d'aussi complexe en termes de je règle les salaires, je règle les cotisations, je donne de la prime d'activité pour. Grosso modo, faire des petites cases et être sûr que les gens sont dans des bonnes cases, c'est quand même pour la gestion des ressources humaines au sein d'une entreprise, c'est extrêmement compliqué parce que vous passez du temps à vous dire si je décale telle personne, qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça, c'est du temps perdu pour faire du vrai business et travailler réellement dans l'entreprise. Et je rappelle juste un point sur les allègements de charges et de cotisations sociales. Aujourd'hui, dans nos économies, on a des entreprises qui sont dites à la frontière de la productivité. Ces entreprises font des gains beaucoup plus conséquent que la moyenne des entreprises. Et ce sont elles qui tirent les pays. On le voit aux États-Unis, vous le voyez en Europe quand vous regardez les entreprises qui sont récentes, qui ont été créées, qui sont plus dynamiques que les autres. Ces entreprises qui tirent la productivité de tout le monde. Si on veut taper sur ces entreprises, elles sont mobiles. Donc il n'y a aucun problème. Allons-y. Un jour, on se plaindra que la productivité du travail ou du capital est en chute libre dans ce pays. Bah, c'est simple, c'est qu'on n'aura plus d'entreprises qui sont motivées pour tirer le reste de la meute.
Il y a Euroluc qui me dit, la seule solution, c'est les retours à 40 heures. Voilà. C'est bon pour les entreprises et les salariés, il n'y a pas d'autre solution. DiMaggio me dit, la seule solution pour baisser les cotisations sociales, c'est la TVA sociale, on finira par y arriver.
Peut-être, je ne sais pas. Non, mais oui, il y a quand même
un petit mot d'impôt. Non, non, parce que une émission sans impôt, ce n'est pas une émission, okay, Mathieu.
Mais non, mais parce que ce que dit Robin est juste aussi, c'est qu'on a aligné les dispositifs entre les allègements Fillon, les 35 heures, le CICE, pacte de responsabilité, tout ça a été transformé. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 70 milliards d'exos de cotise.
Oui, oui.
Et qui ont augmenté, je crois, de 14 milliards en deux ans.
On est à 90, Mathieu, d'exos de cotise.
Ouais, alors, oui. Mais après, il y a. Ok. Bon. On est autant enfin, bon.
Voilà. Oui, je crois.
Oui. Enfin, d'ailleurs, si vous regardez, ça a beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'il y a aussi un poids budgétaire de tout ça. Et c'est vrai, quand on fait cette photographie, ce qui est hallucinant en France, c'est que. Alors, tout ça a été fait pour des bonnes raisons, en fait. Initialement, c'est en disant alléger le coût du travail sur les bas salaires, parce que c'est là où il y a un problème de chômage.
Quand tu fais une niche fiscale, c'est
et la prime d'activité,
pour une bonne raison,
on la met pour éviter que le coût du travail augmente tout en rémunérant mieux les travailleurs les plus modestes, on va dire. Mais quand vous alignez tout ça, à la fin, vous arrivez à quelque chose qui est un peu monstrueux, quoi. Et aujourd'hui, quand vous faites la photographie de l'OCDE, on est quand même le pays de l'OCDE où le taux de cotisation patronale est le plus faible quasiment des pays de l'OCDE au niveau du salaire minimum. Oui.
Ah ben au niveau du travail,
du salaire médian ou de deux fois le SMIC, on est le taux de cotisation patronale le plus élevé de l'OCDE. Donc on a quand même un grand écart qui pose question. C'est-à-dire qu'on est un des rares pays à avoir un tel écart entre le niveau de cotisation au niveau du salaire minimum et au niveau du salaire médian ou deux fois le SMIC.
Donc ça, on se demande comment on en est arrivé.
Là où Alexandra a raison aussi, c'est qu'effectivement il faut réfléchir à une transformation. Mais cette transformation va faire quand même des mouvements. Et ça, c'est toujours très difficile à gérer. C'est-à-dire que forcément, à budget constant,
il y aura des perdants.
Il y aura des perdants. Et vous entendez souvent les perdants dans ces cas-là. Rarement les gagnants. Hein. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le transfert cotisation CSG. Mmh. Les retraités ont été pas. Enfin, je vais peut-être revenir sur un vieux débat, mais oh bon, on a beaucoup entendu les retraités qui étaient mécontents pour à juste titre de perdre en pouvoir d'achat parce que la hausse de CSG. Mais vous n'avez pas entendu les salariés dire hurra, on a gagné en pouvoir d'achat parce que les cotisations ont plus baissé que la CSG, quoi. Donc il y a toujours cette gestion politique à faire et budgétairement. Alors oui, sur la hausse d'impôts. Se pose très clairement la question.
Ah ben alors, dis voilà.
Non, mais.
Osons les mots.
Non, mais le PLF va être le moment crucial. Hein. Le moment crucial, c'est comment effectivement tout ça va s'inscrire dans un cadre ou pas de procédure de déficit excessif. Hein. On est censé réduire à minima de 0,5 point de PIB notre déficit structurel par an, ce qui fait à peu près 14 milliards.
Vous l'avez dit vite, mais on le répète, 0,5 point de déficit structurel en moins tous les ans. Même
tous
si la
ans.
Définition du déficit
oui,
structurel...
Oui, après on peut aller un peu
mais enfin,
compliqué.
Mais enfin, on a eu quand même une idée.
Bon, voilà. Je pense que s'il n'y a pas de majorité qui se dessine, je pense que la Commission peut être un peu, j'allais dire... souple là-dessus, c'est-à-dire que effectivement, mais à terme se pose quand même cette question. Moi, j'ai l'impression qu'on est en 2012 en fait, hein. Avant l'élection, quelque part, sortie de crise, crise financière. Forcément, vous avez des déficits élevés, et c'est posé la question de comment réduire les déficits. Alors, avec les erreurs qui a été faite 2012, mais à la base, Hollande a été élu sur un programme qui a été très différent de ce qu'il a mis en pratique entre 2012 et 2017. Par rapport,
ça a été le choc fiscal.
Bah, il y a eu politique d'offre, alors peut-être pour des bonnes raisons, mais après, choc fiscal pour réduire les déficits. Sauf que là, ça posera vraiment la question, avec une dette à 110 et des déficits à 5,5, une croissance qui est à tonne et des taux d'intérêt élevés, effectivement, comment la trajectoire budgétaire de la France peut être soutenable, sachant que pour le coup, nos partenaires européens sont dans des situations qui sont meilleures, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe, mais qui met la France quand même en difficulté
que,
par rapport
Mathieu,
aux autres.
Ce qui est évident, on l'a évoqué brièvement, mais si on fait une contre-réforme des retraites, là, la sanction des agences de notation, elle sera, c'est la contre-réforme structurelle. Quoi. C'est juste un pays qui fait
alors,
une contre-réforme
sauf structurelle. Sauf si c'est effectivement sous des modalités d'une négociation de financement. Il y avait eu, sous Édouard Philippe, hein, juste avant le Covid, une conférence de financement qui était là pour dire, bah voilà, vous avez un besoin de financement de 13, alors à l'époque c'était 14 ou 18 milliards, je sais plus, à l'horizon 2030, quelles sont les modalités possibles pour trouver. Aujourd'hui, il va falloir trouver des équipes politiques, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent augmenter un peu les cotisations, d'autres qui veulent que l'âge soit pas le qu'on ait un âge pivot, mais qu'on puisse partir à 60 ou 62 ans si on veut, mais alors à ce moment-là, il faut accepter des fortes décotes. Voilà, il faut mettre tout ça sur la table. Le problème, c'est que il n'y aura pas de formule magique, hein, de toute façon. Il n'y a pas de formule magique. Et donc, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, de toute façon, ou en tout cas, il y aura des arbitrages à faire.
Je ne sais pas si on arrivera à la TVA sociale, on arrivera peut-être un jour à la CAPI aussi.
Ouais. Sur la réforme des retraites, il faut quand même redire qu'au-delà de l'aspect budgétaire, de l'équilibre du système, on a aussi fait la réforme des retraites parce qu'il fallait augmenter le taux d'emploi des seniors. Et donc, de toute façon.
Ça fonctionne.
Et ça fonctionne. Et c'est important macroéconomiquement parlant, parce que là, c'est vrai qu'on a tous ces débats budgétaires, mais le budget, c'est pas seulement quelque chose de statique, ça dépend aussi de la macroéconomie. Donc, avec des mêmes taux d'imposition et des mêmes niveaux de dépenses, si la macroéconomie se porte mieux, l'équation est beaucoup plus facile. Et donc, c'est pour ça que parmi toutes les mesures qui sont proposées, notamment par le nouveau Front Populaire, vraiment, s'il y en a une que je pense qu'il faudrait pas faire, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, c'est vrai qu'on peut arriver au même résultat avec des années de cotisation plutôt que l'âge légal, et en effet, ça touche pas les mêmes personnes. Donc, ça peut éventuellement s'envisager. Mais en revanche, le principe de dire qu'il faut qu'on travaille plus longtemps, ça me semble vraiment être quelque chose d'important, pas seulement pour des raisons budgétaires. C'est ça que je voulais dire.
Juste avant, on va dire un petit mot de BYD. Est-ce qu'il faut oser lever le tabou des impôts, croyez, Romain Maton?
Mais là, il est déjà levé.
C'est Jean-Marc Vittori qui a dit il y a des mois, on n'y coupera
pas. Non, mais personnellement, sur ce plateau aussi, je vous ai indiqué à de multiples reprises que le point de TVA vaut 9 milliards, le point de CSG vaut 11 milliards, et que le mitage de la TVA en France, c'est 50 milliards. Donc, vous avez grosso modo des grandes options. Si on veut vraiment passer les 14 milliards de chaque année de baisse du déficit structurel, je vois mal comment on ne touchera pas à un moment à ces grandes masses. Peut-être l'IR, l'impôt sur le revenu aussi, mais qui est quand même déjà bien costaud, donc qui est très concentré sur quelques contribuables. Donc,
c'est, il y en a peu qui le payent, mais il y en a certains qui payent énormément à eux tout seuls.
Et qui ont une certaine quand même mobilité et liquidité. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur la courbe de l'affaire cette dernière semaine.
C'est à cause de moi. C'est pas mal de poser cette question quand même. Je rappelais ce matin que quand on fait l'impôt sur les fenêtres en 1798, les gens, ils muraient les fenêtres.
Non, mais c'est bon. Je me permettais de tendre la perche.
Oui, donc, tendez la perche.
Il y a beaucoup de débats.
Oh, bah oui, je sais.
On sait sur le rendement marginal de l'impôt sur le revenu. Je serais très prudent là-dessus. Et après, les autres grosses masses, elles sont connues. Elles sont ici. On peut aller rechercher un peu d'impôt sur les sociétés si on veut repasser la barre des 25, remonter à 30. Mais pareil, c'est des signaux qui sont extrêmement négatifs. Du point de vue.
Non, mais Juppé l'avait fait en 95.
Il avait fait
une surtaxe d'IS. Justement,
c'est comme la surtaxe sur les revenus, la contribution spéciale sur les revenus qui traîne depuis 2011, donc elle commence à avoir
Sincèrement, comment vous voulez avoir un ajustement de cette ampleur où il faudra quasiment trouver 80 milliards d'euros sans prendre en compte les effets, ce qu'on appelle multiplicateur budgétaire, sans intégrer le fait qu'il y a un besoin d'investissement dans la transition énergétique qui est massif. Donc je vous dis pas les sommes qu'il faut trouver, c'est un moment de dire il faudra aussi de nouvelles ressources fiscales, et ça c'est sans parler d'un programme dans lequel vous augmentez de 10 points
c'est à ISO dépense. Et la grosse différence avec 2011-2012, parce que le choc fiscal c'est une partie Fillon, une partie Hollande quand même.
Le projet
de loi de finances 2012, il est passé par Nicolas Sarkozy et François Fillon, et il est extrêmement dur. Ils ont coupé beaucoup de dépenses sociales qui étaient les dépenses sociales qui restaient encore sous non condition de ressources, notamment la branche famille qui a été complètement désinguée à ce moment-là. Aujourd'hui, si vous l'avez tapé dans la dépense sociale, pour le coup, là, il n'y a plus rien qui est sous, tout est sous condition de revenu. Donc, en fait, dès que vous touchez à de la dépense sociale, vous avez des effets, vous touchez aux personnes les plus modestes et vous avez des effets récessifs qui sont beaucoup plus forts. Donc, aujourd'hui, l'équation budgétaire, elle est vraiment très, très complexe.
On ose les impôts, vous croyez, Alexandra Roulet ?
Oui, je suis un peu silencieuse depuis tout à l'heure.
Encore une fois, il va falloir trouver le bon.
Oui.
Ou les bons.
C'est vrai que si on réfléchit, en fait, c'est la vraie ligne de partage. Ça va être la vraie ligne de partage. C'est d'ailleurs une ligne de partage, y compris au sein du bloc présidentiel, entre un peu l'aile gauche. C'est la ligne fiscale. Le président a toujours été très ferme sur le fait de pas augmenter les impôts. Il a vraiment tenu à tenir cette ligne. Moi-même, j'étais assez alignée avec cette idée qu'il y a vraiment une vertu à donner de la lisibilité, à avoir de la stabilité. Donc, le fait d'être très ferme sur cette ligne avait des vertus. Cela étant, ma réflexion évolue également au vu des discussions, des résultats, etc. Et je pense qu'en effet, il va peut-être falloir venir sur la question des impôts. Je pense que la question des très hautes fortunes sur laquelle le président travaille au niveau du G20. Enfin, dans le cadre du G20 sur l'imposition au niveau mondial des ultra-riches.
Est-ce qu'il y a des choses... 0,0002,
voilà.
Là.
Voilà. Alors ça, c'est peut-être plus symbolique qu'autre chose. Ça ne va pas régler le problème de finances publiques.
250 milliards de recettes mondiales par an.
Je sais, oui, ça ne va pas régler le problème. Oui, mais pour la France, quoi, 5, oui, voilà, oui, quelque chose comme ça, 5, 10. Mais même si ce n'est pas un sujet finances publiques, c'est peut-être un sujet malgré tout important.
Ouais. Les symboles comptent. Benjamin Coria.
Et là, il n'y a pas les effets, vous voyez, sur le débat courbe de l'affaire, effet des incitatifs. On a du mal à ce niveau-là à voir vraiment les effets totalement désincitatifs.
Benjamin Coria, qui est un économiste atterré qui vient souvent ici, m'avait dit un jour sur le plateau, oui, j'admets que sur un sujet purement finances publiques, recettes, recréer l'ISF n'a aucun sens, disait-il, mais les symboles comptent, il disait. Il y a Jean-Sébastien qui m'écrit, je vous entends dire que la politique de l'offre fonctionne, pourtant la croissance est atone, comment est-ce possible ? Quand on prend la période, on a une croissance correspondant à peu près à la croissance potentielle.
On est à peu près comme la moyenne de la zone euro.
Ouais, on n'est pas si atone.
Moi, ce que je critiquerais sur la politique de l'offre, parce que je vais quand même mettre une critique, je pense qu'on avait un vrai problème.
C'est la productivité.
Il y a la productivité, on a une baisse de productivité et le déficit commercial. C'est-à-dire que pour le coup, les parts de marché, on peut augmenter. Moi, je pense qu'elle a été trop basée sur la compétitivité coût. Voilà. Et que peut-être il aurait fait cibler, c'est pas facile. Des choses qui sont un peu plus sur l'innovation, la montée en gamme, sur un certain nombre de choses qui sont hors coût, qui sont pas faciles à mettre en place. C'est-à-dire, il y a quand même un montant qui est extrêmement fort si vous prenez depuis 10 ans, entre les baisses de cotisation de coût du travail, la baisse d'impôt sur la production, les baisses d'IS, tout ça cumulé fait quand même des montants extrêmement significatifs. La question, c'est. Est-ce que justement ça a été bien ciblé ou pas. C'est pas, il faut pas être politique. D'ailleurs, moi, ma critique, c'est que dans le nouveau Front populaire, il y a très peu d'éléments sur la une nouvelle politique d'offre, par exemple, avec la transition énergétique, la réindustrialisation, surtout face à l'IRA, les États-Unis, face à la Chine, même l'Allemagne est en train de mettre en place un certain nombre de choses. Il faut répondre à ces nouveaux enjeux sur les nouvelles politiques de l'offre.
Mais sur la compétitivité
hors coût. Mais qui ne passe pas que par la compétitivité.
Ouais, mais sur la compétitivité hors coût, hein, je rappelle souvent ce chiffre-là, hein, mais la productivité du capital en France est négative. Donc, ça veut dire que les entreprises françaises les entreprises françaises ont investi deux fois plus que leurs homologues allemands, notamment dans du logiciel. Ça ne leur permet pas d'être plus productives. Et donc là, on se pose une question sur comment on fait de la politique de compétitivité hors coût. Il y a un problème de formation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que si vous donnez des beaux outils, mais que votre main n'est pas capable de s'en saisir, vous pouvez investir à perte pendant des années. C'est ce que fait la France aujourd'hui depuis maintenant 20 ans.
Bon,
enfin, il y a beaucoup de choses à dire.
J'ai 1 minute 10. Non, on va pas ouvrir le sujet de la voiture électrique en 1 minute 10. C'est pas possible. Oui, c'était BYD là, qui va s'installer en Turquie. Ça, ils vont pouvoir nous vendre des voitures chinoises fabriquées en Europe et toucher les subsides du bonus écolo. Parce que ça, ce qui est hyper impressionnant, c'est que la première victime de la réécriture du bonus écolo français, c'est Dacia Spring.
Voilà. Non mais ça c'est intéressant parce que dans le débat public actuel, la question de justement de cette transition et de la réindustrialisation, elle est passée quand même très très loin dans les débats économiques. On est beaucoup sur le pouvoir d'achat, la redistribution, alors qu'il y a encore quelques mois, on parlait que du risque de dépendance sur certaines matières premières, certains composants industriels, sur la question stratégique vis-à-vis des pays qui ne sont pas tous amis.
Très peu de mesures protectionnistes dans le programme de la NFP.
Et sans être protectionniste, par exemple.
La gauche a été protectionniste pendant très longtemps et là on ne le sait plus du tout.
Sur cette question de réindustrialisation et de créer des nouvelles filières. Quoi.
Merci à vous, merci Alexandra Broulet d'avoir été là, Mathieu Plane, Robin Rivaton. J'ai eu plein de réactions, je n'ai pas pu tout lire. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.